Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue dans votre émission Patara consacrée à la disparité des réponses du gouvernement aux groupes armés. Pourquoi le gouvernement utilise toute son énergie pour mettre hors d'état de nuire Abdoulaye Miskine et lésine sur les moyens pour les autres leaders armés? Depuis le retour à l'ordre constitutionnel le 30 mars 2016, les groupes armés ont proliféré avec cortège de morts sur presque tous les territoires du pays. Fragilisé, le gouvernement a su conclure en février dernier un accord de paix soutenu par la communauté internationale. Depuis lors, plusieurs cas de violation sont enregistrés. Anti-Balaka, Seleka, UPC, MPC, FPRC, bref, tous les groupes armés ne cessent de violer les dispositions pertinentes de l'accord. Seulement, la réponse du gouvernement varie selon la tête du client. Le gouvernement avait opté en mars de l'année la fermeté en frappant les éléments du FDPC ayant fait obstruction sur le corridor économique Bangui-Douala. Pour le faire, le gouvernement s'était appuyé sur la MINUSCA pour créer les conditions de libre circulation des biens et des personnes dans l'ouest du pays. Bilan, plusieurs personnes arrêtées, une information judiciaire ouverte contre Abdoulaye Miskine et ses hommes. Si l'acte du gouvernement était louable en ce temps-là, il ne servira pas de sillon pour les autres groupes armés. Les éléments de Sidi qui ont mené une campagne punitive à Bohang, Lemouna, Koundili et Loura. Là, le gouvernement épouse une posture nuancée et demande à Sidiki de livrer lui-même les auteurs de crimes. Résultat, trois hommes livrés par ce dernier et les contradictions restent pendantes sur la qualité des bourreaux présumés livrés par Sidiki Abbas. Ali Darassa, patron de l'UPC, n'est pas jusque-là un bon élève après l'accord. Alindao, Mobaï, Zemio, Rafaï et bien d'autres localités de la RCA ont expérimenté la violence armée de ce chef de guerre qui, au-delà de son périmètre de Bokolobo, fait aujourd'hui la conquête de l'espace vital. Les pouvoirs publics peuvent évoquer la perte économique estimée à plus de 5 milliards du fait de l'action d'Abdoulaye Miskine. Il est difficile de quantifier la perte liée au contrôle des ressources minières par les autres groupes rebelles. Il y a quelques jours, le gouvernement se félicite de l'action militaire menée contre Abdoulaye Miskine, ses acolytes et leur arrestation au Tchad suite à la débandade au nord du pays. Alors, beaucoup de questions restent posées. Pourquoi le gouvernement utilise toute l'énergie nécessaire pour mettre hors d'état de nuire certains groupes armés et lésine sur les moyens pour neutraliser d'autres? Y a-t-il des groupes armés gentils et méchants? Si oui, quels sont les critères déterminants de ces groupes? Est-ce que certains groupes armés sont fréquentables que le gouvernement est obligé de fermer les yeux? Comment expliquer aujourd'hui la latitude du gouvernement? Pourquoi la communauté internationale est-elle restée amnésique face aux violations de l'accord par d'autres groupes armés? Toute une gamme de questions au menu de ce débat politique de Radio Ndekeluka. Pour les échanges, nous recevons M. André Nalké Dorogo, premier vice-président de l'URCA, parti de l'opposition. M. André Nalké Dorogo, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Nous recevons aussi M. Alexis Ndui Yabela, directeur de l'ENAM et cadre du mouvement Cœur Uni MCU. M. Alexis Ndui Yabela, bonjour.
Bonjour.
Nous recevons aussi autour du plateau M. Maurice Lenga, responsable des affaires administratives de la Convention républicaine pour le progrès social, parti d'opposition. Monsieur Maurice Lenga, bonjour.
Bonjour.
Nous recevons Monsieur Fidel Ngwandika, conseiller spécial du président de la République, chef de l'État, Faustin Akonje Touadéra. Monsieur Fidel Ngwandika, bonjour.
Ministre, conseiller spécial, merci, bonjour.
Nous recevons aussi Monsieur Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur Paul Cressant Beninga, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de la radio Ndekeluka.
Au centre du débat, appelez-moi Jean-Fernand Kouena. À la technique, c'est le travail de Herman Nambona et de Anne-Alix Pounemati. Patara, gardez l'écoute, on y revient.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Monsieur Alexis Ndui Yabela, vous êtes cadre du MCU. Comment, au sein de votre formation politique, vous analysez la réponse du gouvernement face aux groupes armés?
Je vous remercie pour cette question que vous me posez. Elle est fondamentale, mais en lisant et puis en suivant également votre intervention, je crois qu'il y a une multitude de responsabilités que vous avez dégagées. Il n'y a pas seulement que le gouvernement. Vous avez cité la responsabilité de la communauté internationale, la responsabilité du gouvernement, une panoplie, une variété de responsabilités que vous avez énumérées. Alors vous savez, par rapport à la situation du pays et le contexte de notre pays, la responsabilité première d'assurer la sécurité de tous les Centrafricains, ça appartient, comme vous l'avez dit, au gouvernement. Donc si le gouvernement faillit à ses responsabilités, à ce moment-là, la communauté internationale intervient pour aider. Voilà, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est un concept qui a été dégagé au niveau international dans le cadre du système des Nations Unies, qui s'appelle la responsabilité de protéger, qui se décline en deux concepts. Premièrement, cette responsabilité appartient au gouvernement pour assurer la sécurité des uns et des autres. Et si l'État faillit à ses responsabilités, maintenant, la communauté internationale peut se substituer à cela. Maintenant, on va avancer dans le débat pour décortiquer ce que j'ai dit, en dégageant la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de la communauté internationale également.
Donc, si
l'idéal serait, vous me citez ici en tant que cadre du parti, c'est un problème majeur. Si vous avez convié autour de la table la responsable de l'opposition, bon, on a là le conseil spécial du président de la République, chef de l'État, l'idéal aussi serait de convier à ce genre de débat un membre du gouvernement. Pourquoi vous vous en êtes abstenu? Il fallait un membre du gouvernement qui maîtriserait bien tout le dossier, qui pourra nous donner des éléments d'information. Pourquoi? Puisque là, vous indexez directement le gouvernement. Bon, c'est le principal acteur. Vous ne conviez aucun membre du gouvernement à ce débat.
Et puis bon, plusieurs invitations ont été lancées, mais les gens ont toujours décliné.
Est-ce qu'on peut parler à la place du membre du gouvernement? Bon, en fait, je le dis ça pour l'instant, mais bon, comme on est déjà là pour débattre de ces thèmes, on va s'y aventurer.
Ok, monsieur Maurice Lenga, vous qui êtes de la Convention républicaine pour le progrès social, quelle analyse aujourd'hui faites-vous de la réponse du gouvernement face aux groupes armés?
Merci. Je voudrais, avant tout propos, faire un petit rappel. Je rappelle, vous l'avez dit, mais je voudrais revenir là-dessus. En effet, le 6 février 2019, le gouvernement de la République a signé le fameux accord pour la paix et la réconciliation, l'APPR. Et cet accord avait créé un certain enthousiasme, tant dans le pays que dans la sous-région, ainsi qu'au sein de la communauté internationale. On pensait que cet accord-là devrait être le meilleur moyen pour réduire la violence. Malheureusement, on a constaté qu'au lendemain de la signature de cet accord, les groupes armés qui sont également signataires n'ont pas respecté leur engagement et ont continué, n'est-ce pas, à s'aimer la désolation parmi la population. Et la réponse du gouvernement, comme vous le dites, à notre avis, à la CRPS, on pense que le gouvernement n'affiche pas une politique de fermeté vis-à-vis des groupes armés. Vous voyez ?
Mais Abdoulaye Miskine a été frappé.
Oui, c'est ça. Ce n'est que récemment que Abdoulaye Miskine a été frappé. Mais avant cela, il y avait Ali Darassa qui a sévi à Alindao. Il y avait aussi les événements de Batangafo. Il y avait eu plusieurs cas de violence. Mais il n'y avait pas de réponse ferme du gouvernement. Abdoulaye Miskine a été frappé. Vous le savez, c'est parce que ces hommes occupaient le tronçon qui conduit à Garamboulaye. Et c'est par là où rentrent les produits de première nécessité. Et c'est par là où on fait des prélèvements de taxes pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Et donc, le gouvernement a jugé utile, en ce moment-là, de pouvoir frapper pour que le calme puisse revenir sur le corridor. Mais dans les autres régions, c'est pas le cas. Vous allez convenir avec moi, c'est pas le cas. J'ai parlé des événements de Batangafo, j'ai évoqué les événements d'Alindao et le 21 mai 2019, les trois R ont sévi dans l'Ouampéndé, faisant une trentaine de morts. Et là, Sidiki est là, il n'est pas frappé, le gouvernement lui demande de livrer lui-même ces éléments. Ça, on ne comprend pas au niveau de la CRPS.
Vous ne comprenez pas, monsieur oui. Fidèle Ngwandika, conseiller spécial du chef de l'État, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la réponse du gouvernement face aux groupes armés? Est-ce qu'au sein des groupes armés, il y a des bons et des gentils?
Le problème est tellement grave qu'il ne s'agit pas autour de cette table de l'opposition démocratique, du parti MCU, de la société civile. Il s'agit du peuple centrafricain qui souffre dans sa chair depuis plus de 2 décennies. Je l'ai déjà dit samedi dernier ici. Nous sommes là pour parler de Martin Koutamandi, alias Abdoulaye Miskine, qui est le douanier de tous les seigneurs de guerre en Centrafrique. Combien de fois Abdoulaye Miskine a été appréhendé, arrêté, caressé dans le sens du poil, emmené en Libye, passé des séjours dans des hôtels 5 étoiles, parce que la Libye était contre le Tchad et la Libye était pour protéger Patassé. Combien de fois Abdoulaye Miskine avait été arrêté? Il avait été arrêté au Cameroun, incarcéré. Des missiles de Minissi ici étaient partis pour convaincre le gouvernement camerounais de le libérer. On l'a libéré et on l'a remis à Sassou Nguesso, qui l'a hébergé dans un hôtel 5 étoiles. Abdoulaye Miskine quitte cet hôtel-là, vient faire des incursions punitives en République centrafricaine. Après, il se retrouve dans un hôpital pour se soigner en Afrique blanche. Abdoulaye Miskine revient. On nomme Abdoulaye Miskine selon l'accord du 6 février 2019 qu'on est en train de fustiger ici. Ministre de la République, Abdoulaye Miskine n'est pas content et rentre en brousse. Il quitte sa zone. Il va jusqu'à perturber la paisible population de Birao où il n'y a eu jamais de conflit entre chrétiens et musulmans. C'est vrai, à Birao, il y a un conflit interethnique qui date des années de l'indépendance. Abdoulaye Miskine va aller là-bas pour tuer les gens. Qui ne connaît pas Abdoulaye Miskine dans ce pays? On a ramené Abdoulaye Miskine dans un avion. On l'a fait loger au palais de la Renaissance. Les Centrafricains se sont soulevés comme un seul homme pour dire non. Abdoulaye Miskine est reparti de lui-même. Mais nous reviendrons en large dans cette discussion-là pour parler des crimes odieux susceptibles d'être condamnés par la Cour pénale que Abdoulaye Miskine a fait depuis tous les gouvernements du MLPC. Depuis 1996, 97, 98 jusqu'à 2002 et qui a endeuillé plus de 160 familles peules. Les charniers qu'on a découverts, on y reviendra dessus, pour parler de cet homme-là que le gouvernement aujourd'hui va rentrer en possession.
Ok, c'est l'objectif du débat pour parler de toutes ces questions. Monsieur André Nalquet de Rogo, comment analysez-vous aujourd'hui la réponse du gouvernement? Est-ce que la justice ou la fermeté du gouvernement s'opère en fonction de la tête du client?
Mais vous l'avez dit, on est dans la logique de deux poids, deux mesures. Il faudrait que nous n'ayons pas la langue de bois. Le gouvernement doit pouvoir sévir et sévir de la même manière pour ce qui concerne tous les groupes armés. Pour moi, les groupes armés devraient être neutralisés. Et l'accord de Khartoum dit expressément que les groupes armés devraient s'auto-dissoudre 90 jours après. Aujourd'hui, on est à plus de 10 mois. Au lieu de s'auto-dissoudre, ces groupes armés étendent leur sphère de violence sans qu'on ait levé le petit doigt. Autant, j'apprécie qu'on appréhende et qu'on demande qu'on extrade Abdoulaye Miskine. Autant, j'attends que l'on puisse mettre la même vigueur pour neutraliser. Et Sidiki, Sidiki qui, à l'occasion de l'opération de désarmement, a fait retourner des véhicules avec des armes lourdes vers la frontière Tchad-Cameroun-RCA, en présence et des FACA qui sont sous tutelle de la MINUSCA et des forces onusienne. Je mets quiconque au défi de me dire que c'est faux. Deuxièmement, je prends le cas de Ali Daras. Non content de ses violences et de ses crimes, aussi bien à l'Indao, dans la Basse-Côte, dans le Mbomou, mais subrepticement, M. Ali Daras a quitté Bokorobo, est passé par la route, a traversé la Basse-Côte, le Mbomou, pour aller se positionné dans le Mbomou, avec en prime la nomination d'un préfet, des sous-préfets, de maires et d'autres autorités déconcentrées. En réponse, qu'est-ce qu'on a eu? On a interpellé, quand je dis on, l'Assemblée nationale a interpellé le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a dit qu'une action d'éclat serait prise. À ce jour, aucune action. Alors, on se satisfait des faits d'annonce, de louvoiement, d'atermoiement et des oukases. Je demande au gouvernement, dont c'est la responsabilité, de pouvoir nous démontrer et démontrer au peuple centrafricain qu'il est là pour les protéger, qu'il est là pour garantir l'intégrité du territoire. Ce sont des dispositions constitutionnelles que je répète ici. Auquel cas, on peut s'interroger sur le serment du président de la République.
Ok, s'interroger sur le serment du président de la République, Monsieur Paul Cresson Beninga, quelle lecture en faites-vous au niveau de la société civile dès lors que les groupes armés ne sont pas traités de la même manière?
Alors, merci. Je me réjouis d'avoir écouté autour de cette table Monsieur Ndouyabla, que j'ai eu à côtoyer et qui a évoqué la question de la responsabilité de protéger. Et je me souviens qu'en 2005, sauf erreur de ma part, lors du sommet mondial, les États et les gouvernements étaient revenu sur la question de la responsabilité de protéger. Protéger la population contre le génocide, contre les crimes de guerre, également contre le nettoyage ethnique. Et cette responsabilité a été, si vous voulez, la responsabilité, passez-moi la tautologie, de cette responsabilité a été bien établie. L'État a la responsabilité de protéger sa population. Mais la communauté internationale a également la responsabilité d'aider l'État à protéger sa population. Et en dernier lieu, lorsque l'État manifestement n'a pas les moyens pour pouvoir protéger sa population, la communauté internationale a la responsabilité de protéger la population d'un État. Dans le cas des crises auxquelles l'État centrafricain est confronté, est-ce que la responsabilité de protéger la population est exercée? Je dirais oui, mais de façon partielle, pour répondre à votre question, et je m'explique. Vous l'avez dit, et l'honorable Nalke l'a souligné ici, il semble qu'il y a une sorte de politique de deux poids, deux mesures. Mais honorable, peut-être ce que vous avez oublié, c'est de remonter un peu plus loin. Souvenons-nous en 2017, avec Zoundeko. Lorsque Zoundeko a voulu entrer en guerre avec Ali Daras pour le contrôle de la ville de Mambari, un ultimatum lui a été donné par la communauté internationale, qui à ce moment-là a voulu prendre sa responsabilité d'aider l'État à protéger sa population et a frappé Zoundeko. En 2018, c'est Miskine qui a été frappé. Alors, je l'avais dit et je ne me répéterai jamais assez sur cette question, il y a une sorte de typologie de groupes armés qui a été établie, sans pour autant qu'on nous le dise clairement. Il y a des groupes armés qui sont dirigés par, ce n'est pas de la xénophobie mais c'est une réalité, par des centrafricains, et ces groupes armés-là constituent les principaux cibles aussi bien de l'État centrafricain que de la communauté internationale. Et on peut le démontrer. Quand Zoundeko a été frappé, c'était avec l'appui de la communauté internationale. Si vous voulez, c'est même exclusivement avec les forces de maintien de la paix que Zoundeko a été frappé. Zoundeko, c'était un centrafricain. Quand Miskine a été frappé, c'est un centrafricain. Je ne dis pas ça pour justifier leur rébellion, non, loin de là. Parce que quand on est un groupe armé, il faut effectivement que ça cesse. Que tu sois un centrafricain ou non, tu dois être frappé du moment où tu ne respectes pas les accords que tu as engagés. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il ne s'agit pas des centrafricains, effectivement, on entre dans une autre dynamique. Ce n'est plus une dynamique guerrière, ce n'est plus une dynamique belliqueuse, mais c'est une diplomatie, je vais dire, non agissante. Et je m'explique très rapidement. Regardez comment est-ce que on a voulu négocier avec Sidiki, qui a tué à Lemouna, à Koundili, à Loura, et ce, il faut le rappeler, après la signature de l'accord de paix. Il a commis ce crime de masse après la signature de l'accord de paix. On n'a pas voulu utiliser la force, on a voulu négocier. Et il s'est joué de nuit, s'est moqué de tout le monde. Il a envoyé trois bambins, permettez-moi l'expression, pour dire que ce sont les responsables. Pourtant, à l'Assemblée, le Premier ministre avait bien dit qu'il s'agit de plus d'une trentaine de personnes qui avait commis le forfait. Mais on s'est satisfait des trois personnes qui ont été envoyées à l'État. Ali Daras, après la signature de l'accord de paix, il a tué Azangba. Mais je vous épargne de tout cela. Mais l'actualité, elle est là, dans le Ombumu. Et l'honorable l'a rappelé. Lorsque Ali Daras a été dans le Ombumu, on s'attendait à une réaction musclée, de même nature que ce qui a été fait au niveau de Zoukombo avec les éléments du FDPC d'Abdoulaye Miskine. Ça n'a pas été fait. On est entré dans une dynamique. Et il n'y a pas que le gouvernement, il faut le souligner, mais aussi la communauté internationale qui a manqué une fois de plus